Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes comme tous les lundis à 18h30. Et notre but est toujours le même, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Alors, qu'est-ce que c'est un spectacle vivant ? Ben, vous allez en avoir quatre exemples aujourd'hui, des spectacles qui mélangent plein de choses. Et puis, les thèmes seront très, très, très variés. On va parler politique, oui, oui, mais pas d'Israël, désolé. On va parler absurdie, on peut dire ça comme ça ?
Voilà,
avec Léonard Berthet-Rivière pour le mystère du gant. On va parler mythologie avec Héloïse Mer et Méduse, mais comment la mythologie se récupère aujourd'hui, a un lien avec aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Voilà, avec ce spectacle Méduse. Et puis on va parler quoi ? Alors, réalité, réalité irréelle, parallèle, réalité au pluriel en tout cas.
Exactement.
Avec Kurt de May, voilà, un spectacle de mentalisme, théâtre, musique.
Ouais.
Enzo Wurt.
Oui, exactement.
Ouais, quelque chose comme ça. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un spectacle français qui s'appelle Coupure. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un des grands succès français. Et il est écrit, entre autres, et interprété, entre autres, par Samuel Valenzi. Ils viennent à Volubilis deux soirs, le 18 et le 19 avril. Et on devrait avoir en ligne Samuel. Bonsoir Samuel. Allô ? Ah, ça sonne. On arrive en France.
Oui,
oui, bonsoir Samuel Valenzi, Irid Radio Judaïka.
Oui.
Bonsoir, on a quelques minutes d'avance. On voulait avoir beaucoup de temps pour parler avec tous nos invités.
Ok,
vous,
ça marche.
Voilà, vous allez nous parler de Coupure et je vous présente les autres acteurs et auteurs et magiciens, etc. autour de la table. On a... et alors, vous devez savoir qu'ils étaient tous cet été à Avignon, donc peut-être que vous les avez croisés. Ils jouaient tous cet été. Donc, il y a Léonard, Berthet-Rivière pour Le Mystère du Gant. Il jouait à la Manufacture, si vous avez... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir d'autres spectacles que le vôtre.
Ben, j'en ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas vu celui-ci.
Ah voilà, la Manufacture, ce n'était pas très loin de chez vous. Alors, Kurt de May, pour un spectacle qui s'appelle Réalité, qui se jouait au 11, donc l'ancien Gilgamesh, qui est spectacle de mentalisme avec de la musique. Enfin, c'est un spectacle spectaculaire. Et puis Héloïse Mer qui est là, bon, écoutez, elle jouait deux spectacles à Avignon. Alors le premier c'était Songe de nuit d'été. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, c'était avec.
Non, parce que je crois que si c'est bien celui auquel je pense, il jouait à 10h et je voulais le voir, mais c'était l'horaire auquel on jouait.
Exactement, donc c'était avec des grandes marionnettes. Enfin, un spectacle aussi terriblement spectaculaire d'ailleurs, avec. Je sais pas combien vous étiez sur scène, Héloïse ?
8.
8 sur scène, plus les marionnettes. Donc ça fait 16 en fait. mais elle jouait aussi un deuxième spectacle qui est Méduse. Et là c'était au Don.
Théâtre des Dons.
Vous connaissez le Théâtre des Dons, c'est le théâtre belge. Hein.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc les Belges étaient en force à Avignon cet été. D'ailleurs, je pense qu'ils ont cartonné. Et alors, un spectacle qui cartonne.
J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai pas vu non plus. Donc voilà, ouais, je suis un mauvais élève.
Mais il faut venir en Belgique. Ils jouent, hein, ils tournent ici. Ben, vous venez en Belgique d'ailleurs. Et puis alors, votre spectacle, la carte du lit, vous étiez complet tout le temps aussi avec Coupure à Avignon. Hein, il fallait vous courir derrière. Alors, il s'était tout à fait justifié. Alors, je vous laisse faire le pitch de ce spectacle que j'ai adoré.
Écoutez, le spectacle en gros raconte l'histoire d'un maire qui se retrouve face aux spectateurs qui sont en fait les citoyens de la commune, qui lui reprochent d'avoir installé seul, dans le plus grand secret, sans en parler à personne, des antennes relais dans la commune, alors qu'il est maire écologiste, très engagé et qu'il était contre sur le principe. Et en fait, les citoyens vont lui demander des comptes et on va plonger en flashback dans ce qui s'est passé dans sa famille pour qu'il en arrive là. On va comprendre un peu les rouages de notre démocratie et ce à quoi les spectateurs ne participent pas, pour le dire ainsi. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on change d'avis quelque part. Au départ, on se dit oui, mais comment il va pouvoir justifier ça, maire écolo, il a promis de rien, de jamais faire ça. Et puis effectivement, en comprenant, c'est pas si simple la politique, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et quand on n'y est pas, c'est facile de dire j'aurais pas fait, j'aurais fait, il y a qu'un.
Exactement, ouais, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le spectacle, de voir un peu ce qu'on appelle les zones grises. Voilà, vous l'avez dit vous-même, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plus compliqué qu'on l'imagine. Après, la particularité de ce spectacle, c'est qu'on le fait avec, on va dire, beaucoup d'ironie, beaucoup de dérision, et on essaye avec beaucoup d'humour pour traiter ces sujets-là de façon joyeuse, on va dire.
Oui, c'est ça. C'est vraiment vrai. Alors, pour la petite histoire, figurez-vous que j'ai une amie qui est belge, qui a acheté une maison à Boulbon. Et elle est revenue effrayée parce que le maire de Boulbon a accepté une antenne 4G ou 5G. Et elle dit, c'est dégueulasse. J'ai dit, bon, bah, au moins peut-être la commune a reçu de l'argent, alors que s'il avait mis dans la commune à côté, vous auriez les mêmes méfaits sans les sous. Enfin, c'était drôle parce qu'on en avait... Enfin, c'est terriblement actuel ce que vous avez choisi comme thème. Mais je crois que de toute façon, c'est des thèmes qui vous tiennent à cœur, non ? Et par vos études et par vos convictions.
Oui, c'est ça. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement dans la compagnie. En gros, ce qui nous passionne, c'est que les questionnements écologiques soulèvent souvent des questionnements intimes. C'est-à-dire que vous mettez une antenne dans un village, vous mettez une éolienne au milieu d'un champ, vous mettez un entrepôt Amazon dans une commune, et tout de suite vous avez des positionnements qui arrivent très fort, et beaucoup de divisions et beaucoup de conflits. Et en fait, c'est ça qu'on explore, c'est les chocs intimes que provoquent les questions autour de la transition.
Ah oui. Alors encore un lien, parce que c'est terriblement actuel, donc encore un lien. Moi, j'habite dans une commune où c'est des écolos qui sont au pouvoir, on va dire, et donc ils ont transformé un home de vieux en SAMU social. Donc évidemment, tout autour, tout le monde est un peu effrayé. Et c'est vrai qu'on en veut des SAMU sociaux, mais pas chez soi, juste plus loin.
C'est ça. C'est ce que les Anglais appellent le NIMBY, le Not in my backyard.
C'est, exactement.
C'est très bien, mais pas chez moi, quoi.
Oui, exactement. Qu'est-ce que le public vous dit après la pièce ? Est-ce qu'il y a parfois des bords de scène, des discussions ?
Ben, très souvent, on a des... Alors déjà, ça se passe en zone rurale, donc on a beaucoup de témoignages de gens qui trouvent très juste la façon dont on a parlé des agriculteurs. On l'a fait parce que le maire est d'une famille d'agriculteurs. On a essayé de le faire avec beaucoup d'empathie, puis beaucoup de force vitale chez ces personnages, plutôt qu'un traitement un peu dépressif qu'on voit beaucoup dans le cinéma français et qui ne nous paraissait pas très juste du milieu agricole. Et après, il y a quelque chose qui résonnait... particulièrement chez beaucoup de monde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des communes où il y a eu des projets un peu similaires et des méthodes de décision assez contestées. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un petit peu moins seuls en voyant le spectacle et en voyant que ces problématiques-là nous traversaient, nous interrogeaient aussi.
Alors je dois quand même souligner l'interprétation aussi, parce que si ce spectacle fonctionne, c'est parce que c'est bien écrit, que le thème est intéressant, mais aussi que voilà, votre jeu est vraiment de très très grande qualité. Donc on s'identifie soit à l'un, soit à l'autre, soit ça évolue, mais en tout cas, voilà, félicitations pour la qualité du jeu.
Ben, merci beaucoup.
Alors mes autres invités...
C'est mon moment, cheville qui gonfle, c'est gentil.
On est à la radio.
Vous en avez plus besoin pour ce spectacle-là, ça y est, ça s'appelle un succès.
Non, c'est bon, je rentre plus dans mes chaussures, merci.
vous l'avez déjà joué combien de fois
Je crois que c'était la 270e à Marseille la semaine dernière.
Ce qui est quand même très très rare. Enfin, principalement, oui, par exemple, en Belgique, on n'a pas l'habitude des longues séries. C'est assez...
Bah, j'avais pas l'habitude non plus avant, donc voilà, c'est une première.
et vous en êtes sur... Vous êtes sur un projet suivant
Oui, on est en train d'écrire avec le même co-auteur et co-metteur en scène, Paul-Éloi Forget, un spectacle qui va s'appeler Made in France et qui va aller explorer un peu les causes et les conséquences de la désindustrialisation de notre pays. Mais on va en faire pareil, une grande comédie assez ironique, assez tendre et assez féroce, je crois, envers les acteurs de cette catastrophe annoncée qu'on est en train de vivre en France.
On peut peut-être citer les autres acteurs, alors maintenant que j'ai mis de la pommade sur tout le monde. Alors, donc, pour coupure, on a...
Il y a Michel Derville au plateau, Valérie Moinet, il y a également June Assal, donc Paul-Éloi Forget et moi-même les auteurs du spectacle. Et puis il y a aussi une violoniste de grand talent qui s'appelle Lison Favard et qui est en alternance avec Edwin Chirol, mais c'est Lison Favard qui a créé elle-même la musique du spectacle qu'elle interprète, qui a fait un super beau boulot. Donc voilà, c'est une équipe de 6 personnes, donc quand même assez, belle équipe. Ça fait de plus en plus rare, malheureusement, dans le spectacle vivant.
Ben exactement. Alors, de la musique en direct, alors nos invités en ont aussi. Chez Kurt, il y a encore un violoncelliste.
Oui, c'est ça.
Un contrebassiste, ouais. Sur scène. Sur Méduse.
Oui, il y a un créateur sonore au plateau.
Voilà, au Gandon. Ah, vous aussi ?
Il y a un compositeur de la musique, oui, Maxence Van de Velde. C'est pas joué en direct.
Mais il a composé.
Il a composé pour le spectacle. D'ailleurs, je vous remercie énormément.
Mais voilà, c'est quand même merveilleux d'avoir d'inclure de la musique actuelle, vivante, dans les spectacles. Est-ce que tous les trois ici en plateau, est-ce que l'écologie, la politique, ça rentre dans vos créations, dans vos préoccupations ?
Je trouve ça très intéressant. Moi, j'y croyais pas avec ce sujet, non. Mais je trouve ça très intéressant, oui.
Voilà, donc Samuel, c'est là qu'on peut se dire, tiens, ça c'est un accent belge, donc pour vraiment bien expliquer, donc Kurt est néerlandophone, néerlandophone en fait. Hein.
Ouais.
Voilà. Voilà.
J'en ai pas mal dans ma famille, hein, puisque June Assal, qui joue sur scène, est aussi ma compagne et future femme, donc et elle est d'origine belge, de Bruxelles, donc j'en entends souvent, ça ne suis pas dépaysé.
Ok, bienvenue, parce que l'accent belge, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est comme l'accent français, je veux dire, chaque ville a son accent, chaque langue, langue a son accent. Il y a quand même aucun français qui arrive à imiter les Belges, désolé.
Tant pis, je ne m'y risquerai pas, on voit bien que les Belges viennent nous voir, je ne le ferai pas.
Alors Méduse, il y a de la politique, il y a de l'écologie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du féminisme.
Oui, donc en ce sens-là, c'est politique.
Ouais. Ben oui, voilà. Et dans le Gand, qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, il y a...
Dans le mystère du Gand, je ne sais pas, c'est trop difficile de savoir ce avec quoi les spectateurs repartent, spectatrices repartent chez eux finalement. Mais disons que j'espère que le politique se trouve dans la salle, puisqu'au moment du rire, alors tout le monde rit ensemble,
exactement.
C'est déjà quelque chose.
Exactement, rassembler une... Alors, c'est une des particularités en Belgique aussi, c'est que les spectacles, en tout cas belges, ne coûtent pas très cher. Pour les spectateurs, donc on est autour d'une vingtaine d'euros pour une place de spectacle. Évidemment, chez vous, vous êtes 6, vous venez de France, etc., donc c'est légèrement plus élevé. Vous venez donc à Volubilis le 18 et le 19 avril. Et donc Héloïse...
Et avant ça, on est à Arlon.
Arlon, d'accord. C'est assez loin, hein, quand même. Enfin, je sais qu'en France, quand on dit 120 km, c'est rien, mais chez nous, on est presque sorti du pays. Hein. C'est le Luxembourg. Mais Arlon, c'est super. Donc vous venez deux soirs, le 18 et le 19, et Héloïse qui vous suit partout, donc, elle joue aussi à Volubilis, mais le 25. Le jour où Kurt joue...
Ouais, exactement.
Enfin, tout ça se tient. Alors, vous nous avez proposé comme musique pour Boris Vian, c'est dans mon top 3 personnel, et je trouve qu'on ne le réentend pas assez, donc vraiment merci de l'avoir choisi.
Avec joie.
Voilà, la complainte du progrès en plus, un tube. Et on se réjouit donc de vous voir en Belgique le 18 et le 19 avril à Volubilis. Au revoir Samuel Valenzi.
Au revoir Samuel.
Au revoir. Merci.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette va faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Ah, celui-là, on l'a laissé jusqu'au bout. Hein. Bon, désolé, c'est pas juste. Hein. C'est juste, c'est très... voilà, c'est pour me faire plaisir à moi. Et on passe au mystère du gant. Donc, écrit par Roger Dupré et mis en scène et joué par Léonard Berthet-Rivière et...
Muriel Legrand.
Voilà. Mmh. Et je vous laisse aussi faire le pitch de...
Avec plaisir. Mais c'est un plaisir pour tout le monde de passer après Boris Vian. Merci beaucoup, Samuel, merci pour cette proposition. le pitch du mystère du gant, oui, eh bien, c'est un vaudeville. C'est un vaudeville à table, ou presque, puisqu'il y a 13 personnages, 4 actes, et seulement un acteur et une actrice. Et le mystère du gant raconte la vendetta d'un personnage qui s'appelle Gérard Bernimolin contre son concurrent, Raymond Duchaussois, le jour où ce dernier, Raymond, est venu enlever sa maîtresse, Inès Bernimolin, la femme du premier, de Gérard, alors que Frédéric, le fils du deuxième, Raymond, lui, il est venu demander la main de Sophie, la fille du premier, c'est-à-dire Gérard et Inès, qui est, elle, enceinte jusqu'aux yeux, la fille, mais qui l'ignore. Voilà. Et au milieu de cette histoire de famille, eh bien, il y a une bonne amnésique, Alexandrine, une armoire à deux pans, un docteur habillé en oiseau, il y a Bernard et Chantal Couchard, qui est un couple d'amis. Et il y a aussi le commissaire de la folie qui tombe. Et puis Claude, enfin, un employé immigré qui va tour à tour se faire tirer dessus, perdre un bras, se refaire tirer dessus et mourir. Et on dit aussi que de nombreux spectateurs et spectatrices périssent pendant la représentation. Voilà le pitch du mystère du gant.
Merci de l'avoir fait pour moi. Donc j'ai eu l'occasion de le voir il y a 2 ans. Vous aviez fait une pré...
Je pense que tu l'as vu à la création.
Oui, c'est ça.
Donc c'était une création du studio au Théâtre National.
Bon, c'est savoureux. On passe un temps qui passe très, très, très vite. C'est un vaudeville, mais il n'y a pas de porte qui claque.
Alors, il y a des portes qui claquent, mais on ne les voit pas.
C'est ça. Ouais, ouais. Et c'est très moderne, en fait. C'est terriblement moderne. Alors, je ne connais pas Roger Dupré, mais il faudra un jour qu'on l'invite et qu'on lui demande ce qu'il boit, ce qu'il mange, parce que bon, c'est très original, très très original. Et on suit quand même. Je ne dis pas qu'à la fin on retient et qu'on peut faire le tableau de tous les personnages, etc. Mais on suit très bien l'histoire, en fait, quand même.
Oui, oui, ça me fait plaisir que... On se dit tu, hein.
Oui.
Ça me fait plaisir que tu dis ça, parce qu'en effet, l'histoire, elle se tient.
Oui.
Et il y a parfois des bords de scène ou après le spectacle, des personnes du public qui nous disent « Mais j'ai tout vu, j'ai tout suivi ». Et qui sont fiers de ça. Il y en a d'autres qui disent « j'ai rien compris ».
Et peut-être qu'on se fait chacun son histoire, en fait. Hein. Peut-être que ce n'est pas tous la même histoire, mais en tout cas, on se fait une histoire.
Oui, et puis ce qui compte, moi, en tant que spectateur, quand je vais au théâtre, des fois, je ne suis pas tout dans l'histoire, je ne comprends pas tout. Mais ce qui compte, c'est aussi de se laisser porter. Et c'est un peu ce qu'on invite, c'est un peu l'invitation qui est faite.
Lâcher prise.
Muriel Legrand le dit au début du spectacle au public. Puisqu'on s'adresse à eux et à elles, et on dit là, soyez dans le laissez-vous porter, quoi.
Alors je demande souvent à quoi sert le théâtre. Alors à quoi sert cette pièce?
Ouais, mais c'est une bonne question. Peut-être qu'elle sert à différentes choses et pas qu'à une seule. La première, c'est que moi, avec le mystère du Gant, j'ai voulu, puisque en fait, disons-le, Roger Dupré n'existe pas vraiment, c'est un auteur inventé, j'ai voulu en l'écrivant rendre hommage au vaudeville, donc en écrire un pastiche, c'était déjà une manière d'une forme de déclaration d'amour à un genre qui s'inscrit dans l'histoire du théâtre et qui est là pour déclencher le rire avec des intrigues un peu précises, etc. Moi, j'en ai écrit une un peu prétexte à ça, à déclencher le rire. Et alors, on se retrouve du coup au théâtre dans une salle pour une expérience unique en direct avec un acteur, une actrice sur le plateau. Donc, c'est déjà la célébration de ce rendez-vous.
En tout cas, ça sert à au moins à une chose, c'est que pendant combien de temps dure la pièce ?
1h10, si tout se passe bien.
On ne peut pas penser à autre chose, c'est impossible, parce qu'on pense tellement à tous ces personnages, les liens, les histoires, etc., que dans tous les cas, on pense à rien, enfin, en tout cas, on pense à l'histoire et à rien d'autre, et on repart avec un sourire, de toute façon.
Tant mieux. La pièce pose aussi quelques questions sur qu'est-ce qu'on fait, finalement, là, sur Terre, vivant, qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des questions qui se déposent de manière... plus indirect, on va dire, au cours
alors,
du spectacle.
Alors, Héloïse, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'aller voir cette pièce ?
Moi, je l'ai vue, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Donc, voilà. Si on a envie de rire, je pense qu'il faut y aller.
Et Kurt, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie d'aller voir ce genre de pièce ?
C'est la première chose, c'est la première fois que j'entends parler maintenant. Je pense que l'humour, ça semble très... compliqué, vraiment dans l'imagination, je pense aussi, non ? Voilà, donc ça.
Alors là, c'est, on va dire, c'est surréaliste.
Ouais.
Et chez toi, c'est une autre réalité. D'ailleurs, ça s'appelle.
C'est aussi surréaliste, on peut dire.
Voilà, c'est ça. Ouais, donc il y a quand même un lien.
C'est la patte belge, ça. Il y a un côté surréaliste. Mais,
voilà. Qu'on trouve tout à fait normal, nous, en fait.
Ouais.
Et voilà, comment ça s'est passé à Avignon pour vous ?
Déjà, on était très heureux de cette expérience, d'aller jouer là-bas, au Théâtre de la Manufacture.
C'est très prestigieux, il faut le dire à ceux qui ne sont jamais venus à Avignon, et Gilgamesh.
Et le Théâtre 11 maintenant,
oui. Et le 11, oui. Et la Manufacture, c'est très prestigieux. C'est-à-dire, quand on ne sait pas quoi aller voir, on se base aussi sur la programmation de ces deux-là. Alors, Héloïse et Théodon, c'est un peu particulier, parce que c'est un théâtre belge, où uniquement il y a des productions belges. Très sélectionné, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Mais le 11, enfin voilà, vous étiez dans deux théâtres très prestigieux. Bravo. Ouais. L'honneur de la Belgique était bien représenté, en tout cas.
Merci.
Dans quelle salle vous étiez ?
Nous étions juste en dehors des murs, dans la salle de la patinoire.
Ah, la patinoire, oui. C'est grand.
C'est grand.
Parce que vous étiez deux sur scène avec votre table, dans cette grande salle.
Oui, on est deux sur scène, mais il y a aussi la participation d'un scénographe... qui s'appelle Jérôme Souillot, qui a travaillé sur ce spectacle et qui a conservé l'aridité de la table et des deux chaises, jusqu'à un certain point, mais je n'en dis pas plus.
Ah oui, d'accord. Et puis vous disiez qu'il y avait de la musique.
Oui, tout à fait. Maxence Van de Velde, qui nous a fait le bonheur de venir assez tôt d'ailleurs sur ce projet, avant qu'on le crée au Théâtre National, pour en inventer la partition musicale. Oui.
Ok, super. Et alors, à part ça, je crois qu'à part le théâtre, c'est aussi du cinéma, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Tu m'as demandé ce que je faisais. Je tourne bientôt dans un film de Grégoire Vigneron à Bruxelles, et avec d'autres acteurs, actrices. Et puis, on m'a fait la proposition d'apparaître dans le prochain spectacle d'Yves Bonnen, qui sera créé au Théâtre de Pau, puis c'est les Bouffes du Nord à Paris qui reprennent ce spectacle et qui le produisent avec la compagnie d'Yves Bonnen. Et donc, c'est sur le procès de Jeanne d'Arc, avec Judith Chemlach, seule au plateau, et avec d'autres comédiens d'une autre façon, vous verrez.
Magnifique, j'espère que ça viendra en Belgique quand même.
J'espère aussi.
Et donc là, on peut voir le mystère du Gant du 16 au 26 avril au Théâtre
Des Martyrs, absolument.
Et comme je dis, c'est une des plus belles places de Bruxelles.
On est très heureux, nous, que la saison après la création à Bruxelles, on nous invite dans un prestigieux théâtre, donc Philippe Sireuil, au Théâtre des Martyrs. On est très heureux du 16 au 26 avril, tout à fait.
Voilà, vous jouez tous un peu à la même date, c'est pour ça que vous êtes là ce soir d'ailleurs. Mais voilà, là, on a le temps de le voir. Il joue une dizaine de jours.
Ah, parfait.
Pas d'excuses. Alors, je ne connais pas la musique qu'on va entendre, mais quand j'entends La pince à linge,
Mais oui, en
c'est
fait,
pas du Mozart.
Enfin, c'était, c'est grâce à Muriel Legrand, qui est donc ma partenaire de jeu sur le Mystère du Gange. Je parlais avec elle, je disais, Erit m'a proposé de m'a demandé une musique pour notre rendez-vous, et Muriel m'a fait écouter ce morceau, entre autres. Donc c'est écrit par Francis Blanche et Pierre Dac, La Pince à Linge, et en fait ça renvoie un petit peu aux origines du vaudeville, puisque le vaudeville c'est un théâtre, on pourrait dire, un théâtre à couplets. Il se base sur, au départ, des chansons de remplacement de chansons, c'est-à-dire on remplaçait des paroles, on inventait des paroles sur des morceaux existants que tout le monde connaissait de la culture populaire. Puis petit à petit ça a migré vers, enfin ça c'est l'histoire du théâtre, vers des histoires quoi. Et donc c'est fin 18e, 19e siècle, cette période-là. Et alors donc avec ce morceau-là, j'étais ravi parce que je trouve que ça... Déjà Francis Blanche et Pierre Dac, ils n'avaient pas leur plume dans leur poche, mais surtout voilà, ça fait un clin d'œil à un univers surréaliste, à un univers un peu...
Encore un.
Où l'esprit de sérieux aussi s'évade pour laisser place à autre chose. Voilà.
Ben, on l'écoute.
La pince à main. La pince à linge.
Lapin, lapin,
lapin, lapin,
la pince à linge.
Lapin, lapin,
lapin, lapin,
la pince à linge. La pince à linge.
La pince à linge.
La pince à linge.
La pince à linge.
Lapin, lapin, ça va. La pince à linge.
Fut inventé
en 1887
par un nommé
Jérémy Victor Abdebec,
fils de son père et de sa mère,
neveu de son oncle
et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur et frère de l'aile, un marchand de beurre.
La belle histoire.
Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles,
des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Abdebec.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait
qu'un si chouette mec, Jérémy Victor Abdebec.
Et voilà, c'était une version courte.
Oui, mais on parlait avec...
Ah, ça,
avec
en parlant de courte, voilà.
De courte, voilà exactement. De Francis Blanche et Pierre Dac, qui faisait un numéro de mentaliste. Ouais.
Très connu, voilà. Tu vois. Ouais. Mais quand Court dit « je peux le dire », il le dit.
Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez deviner le numéro de la carte d'identité de madame ? Oui, je le peux. Voilà. Je le peux.
Bravo. Et est-ce que Kurt peut deviner le numéro de la carte de crédit de monsieur ? Non. Oh, ça fait pas partie.
Comme mentaliste, je devrais dire oui, je peux.
Oui, hein. Voilà. Et tout le monde applaudit.
Et voilà.
Voilà. Donc, Kurt, de mai, vous venez pour le spectacle Réalité, que j'ai pas encore vu, mais j'ai vu le précédent. Alors, vous nous avez dit que ce n'était pas le même genre, ou bien c'est le même genre ?
Oui, oui, c'est celui qui suit de
D'accord.
Évidence inconnue. Ouais.
Donc, Évidence inconnue, c'est
ouais,
ça.
Oui, Évidence inconnue, c'était autour du hasard. C'était une recherche autour du hasard. Et surtout, le moment qu'on met les gens sur la piste du hasard. Donc, ça veut dire que le hasard commence à tomber de plus en plus. Et dans ce spectacle, même dans une façon que c'est plus possible, mais c'est vrai parce que c'est dans les mains des spectateurs. On ouvre les jeux et on voit des liens partout, et le hasard va tomber encore de plus en plus en plus, et je ne vais plus rien faire, et ça va automatique après.
Mais c'est, et voilà. Dans ce spectacle-ci, donc, il s'appelle Réalité au pluriel.
Oui, donc ça, c'est un autre spectacle. Donc là, c'est une autre recherche. C'est plutôt plus déterministe comme Évidence inconnue. C'est très ouvert, c'est le hasard. Ici, on a, c'est un spectacle surréaliste, mentalisme, poétique. Musique, la musique avec Joris van Vinkerooijen.
En direct, oui.
En direct, oui. Ouais, comment dire, premièrement pour dire qu'est-ce que c'est le mentalisme,
voilà,
peut-être.
Voilà, c'est ça, je voulais dire aussi, qu'est-ce que c'est le mentalisme.
Voilà. Il y a beaucoup de définitions pour ça, mais je pense qu'on peut le dire que c'est une sorte de technique d'illusion, dont l'illusion qu'on peut lire, par exemple, dans les pensées. Alors, dans les spectacles, moi, je ne lis pas dans les pensées, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne prends pas ce personnage... de pouvoir, l'homme fort, qui dit, regarde, qu'est-ce que je peux faire, c'est je ça. Peux te manipuler, je peux t'hypnotiser. Donc ça, c'est un personnage qui peut être intéressant. Dans mes spectacles, je n'utilise pas ce personnage, donc on ne va pas le rencontrer sur scène. Par contre, j'utilise les techniques pour qu'il y ait des événements que tout d'un coup, vous dites, non, mais attends, mais ça, ce n'est pas possible. Et donc, on entre dans un monde surréaliste, un monde où on dit, mais ce n'est pas possible, mais ça...
Mais je le fait, vois, donc c'est que c'est...
Voilà, donc ça devrait être possible, mais on ne comprend pas comment et pourquoi.
C'est ça.
Et...
Honnêtement, comme public, on se dit surtout, mais comment il a fait et après, on se dit, ce n'est pas possible.
Et pour moi, la réponse devrait être plutôt une réponse poétique. Qui reste chez vous et pas seulement le comment. Ce qu'il est chouette, c'est qu'après le spectacle, tout le monde reste parce que
il veut
dire mais comment toi t'as vécu le spectacle, est-ce que toi
t'as compris quelque chose,
oui t'as compris comment c'est possible, oui,
oui c'est ça, ouais.
C'est aussi très enfantin ce sentiment
d'ailleurs, pour avoir vu des spectacles de magiciens excellents, ouais. Et puis après avoir vu des spectacles de magiciens débutants où on devinait les trucs, finalement, ça a enlevé beaucoup du plaisir de dire « Oh zut, j'ai compris comment il avait fait. » Et alors, ce n'est pas drôle, quoi. Donc, ce qu'on aime, c'est de ne pas comprendre, en fait.
Oui, bien sûr. Et honnêtement, pour moi, je m'en fous même si vous le comprenez ou pas. Oui. Je sais que vous n'allez pas comprendre. Mais même les gens qui, par exemple, comprennent le tour, je ne sais pas comment, mais...
Je crois qu'ils comprennent, en tout cas.
Oui, mais ce n'est pas grave.
Non.
Donc, dans les spectacles, j'écris aussi ce lien... c'est pas seulement autour ce sentiment magique, c'est même chouette de comprendre des choses et après de suivre le
donc
spectacle.
Donc ça part de quoi un spectacle ? Est-ce que ça part de, je sais pas, d'une philosophie, d'une idée ou d'une histoire ou justement d'une manipulation nouvelle que vous avez maîtrisée ?
Comment je comprends que je commence ?
Oui.
Oh, ça dépend.
Par exemple, d'un spectacle. Oui.
Oui, par exemple, la réalité, nous sommes commencés à lire des livres, comme j'ai un livre avec moi, Carlo Rovelli, c'est quelqu'un qui vit à Marseille, qui donne des cours dans l'université, c'est en fait un grand physicien, et il a écrit un livre, je pense qu'en français, il s'appelle L'ordre du temps. Donc, il explique comment le temps, il est différent partout. Pour nous, le temps, c'est une direction très fixe.
C'est mathématique aussi.
C'est très mathématique, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait.
C'est une notion abstraite, en fait, le temps.
Oui, c'est pas abstrait, mais par exemple, si on mesure le temps ici sur la table ou au sol, il y a une différence de temps. Le plus vers un endroit lourd, comme la Terre, le temps s'écoule lentement. Donc ça veut dire que s'il y a deux personnes, il explique ça dans le livre, il y a deux jumeaux, l'un va vivre dans les montagnes, l'autre à côté de la mer. Après 30 ans, ils vont se recroiser. Alors celui qui a vécu dans les montagnes, il est vieilli plus en fait. Et donc c'est pas poétique, c'est de vrai. Bien sûr, sur la Terre, la différence est assez petite qu'on ne va pas le voir. Non.
Mais il y a une différence.
Mais il y a une différence. Dans l'espace, ça peut donner des dimensions beaucoup plus grandes. Mais voilà, nous sommes commencés à imaginer des choses avec ça. Ou comme Einstein avec son théorie relativité spéciale, en fait. Il dit que tout existe comme dans un conteneur, le présent, le futur, tout en même temps. Ça dépend de quelle perspective tu regardes. Alors, ça veut dire que le futur peut arriver avant le passé, en fait. Et ça, c'est très bizarre. Donc on peut imaginer ça scientifiquement, mais dans notre monde, ce n'est pas possible parce que nous, on a une direction de passé vers le futur très claire. Et dans le spectacle, avec le mentalisme, donc, on ne prouve pas que c'est vrai, mais on va jouer avec. Donc, on va vraiment jouer avec le présent, que tout d'un coup, vous allez comprendre que c'est le passé, et vice-versa. Donc, on va vraiment vous mettre dans une situation où vous pouvez plus comprendre est-ce que vous êtes dans le passé, le présent, le futur, et vous allez vraiment avoir ce sentiment. Et donc, ça... Ouais, ça peut être un petit peu énervant, bien sûr. Oui, voilà.
Déstabilisant. Voilà.
Oui. Et en même temps très chouette, hein, parce que pour ce spectacle, on ne devrait rien comprendre de monde physique. On peut juste vivre sans connaissance, mais ça va être parfois drôle. parfois un petit peu énervant, pas, mais oui,
déstabilisant. Oui, oui.
Ouais, ouais.
Oui, oui.
Voilà.
Alors, est-ce que ça vous donne envie, tous les deux, de...
Ouais, très fort.
De pas comprendre.
Ben oui, bien sûr. Tu te demandais tout à l'heure à quoi sert le théâtre. Oui. Ben là, on a aussi un bon exemple de prendre un peu de distance avec les choses, de nourrir la pensée, de créer du lien entre les gens.
Avec la réalité.
Oui, parce que...
avec la réalité.
Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment avec le public qu'on a fait.
Ah ben
donc,
oui,
il y a
c'est
pas
ça.
Le,
tout le monde
le...
participe, en
oui,
fait.
Tout le monde participe dans la salle. Il n'y a pas ce problème comme avec des vrais mentalistes où tu as peur de venir sur scène parce qu'en en fait, on ne fait pas ce jeu.
Il y avait quand même, dans le premier, il y en avait quelques-uns qui montaient sur
oui,
scène.
Oui, ici aussi, il y a même un moment qu'il y a 30 personnes sur scène. Ah oui. Mais dans une façon, en fait, tout le monde imaginait des trucs, et, des mots. Sur la scène, il y a beaucoup de pierres, en fait. Et à la fin, les gens vont comprendre ce que, tout ce qu'eux, ils ont imaginé. C'était tout le temps là,
écrit
sur la matière, oui, dure, sous les pierres. Donc,
ils
vont soulever les pierres, ils vont retrouver leurs mots, et ça... C'est très bizarre de sentir ça.
Est-ce que vous avez d'autres mentalistes dans le monde qui sont des modèles ou des...
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de mentalistes. Un mentaliste que j'adore, c'est complètement notre travail, mais c'est Darren Brown, c'est en Angleterre. C'est quelqu'un, oui, merveilleux, ce qu'il a fait pour le mentalisme.
Parce qu'en fait, maintenant, entre guillemets, le cirque, parce que... Finalement, la magie faisait partie de,
du
cirque, a tellement évolué que c'est des vrais spectacles avec des personnages qui jouent, avec des vraies histoires.
Ouais, ouais.
Il
n'y
a pas uniquement le, que ce soit l'acrobatie, la magie, etc. Tout doit être emballé dans une vraie histoire. Et ce ne sont plus des petites séances où tous les quarts d'heure, on change de numéro. Mais c'est
ça existe aussi, hein.
Oui, oui. Le théâtre, le cirque traditionnel. Mais de plus en plus, ce sont des vrais...
Oui.
Voilà, des longs
la magie
spectacles.
Nouvelle,
oui,
comme on disait, ouais, ouais, donc il y a la vraie recherche artistique chez les magiciens. Ouais.
C'est ça, donc il faut, il faut vraiment être pas seulement des bons magiciens, on va garder le mot de base, mais aussi des interprètes, des créateurs.
Mais souvent les magiciens, parce qu'il n'y a pas vraiment une école pour les magiciens, donc souvent ils ont aussi une autre base. Moi je viens de l'art plastique. Donc voilà, j'étais déjà...
Dans la matière.
Ouais, dans la matière un peu.
Oui, mais toutes les techniques quand même, comment vous les avez apprises alors?
Oui, ça c'est de beaucoup lire et après il y a beaucoup de congrès autour.
Est-ce que ça demande autant d'exercice que ceux qui font de la manipulation, qui doivent vraiment être...
Oui, quand même, oui.
Oui, oui vous entraînez tous les jours?
Non, pas tous les jours, mais oui, je lis tous les jours, j'essaye, parce que j'invente mes propres tours, donc je suis tous les jours quand même...
En création.
Avec mes petites boucles de sketch, de notes, en train d'imaginer...
Et vous jouez ce spectacle en français et en néerlandais?
Oui, et en anglais.
Et en anglais.
Et en fait, parce que c'est vrai que c'est pas seulement le spectacle, il va être aussi un expo autour de ce spectacle...
Donc vous venez le 25 avril au Centre culturel Ducle, et on a quand même une chance, c'est qu'on peut offrir des places. Donc si vous voulez des places sur le, sur le Facebook de l'émission donc du Judaïque Culture Club, vous nous envoyez en message privé donc votre nom, on tirera au sort et on a des places à vous offrir. Peut-être, je sais pas. C'est une autre réalité. Non mais oui, on a des places à vous offrir pour le 25 avril. Donc en français, en néerlandais et en anglais.
Et en anglais, ouais.
Alors, est-ce que vous voyez des réactions différentes du public en français, en néerlandais, en anglais?
Non, je peux pas. Ouais, bien sûr, chaque salle est
différente. Comment on dit en français, tout le monde est scotché. Vous dites ça,
tout le monde est scotché.
En fait,
ouais,
les gens sont sur la fauteuil.
Oui, je comprends l'expression. Oui. Non, oui. Honnêtement, c'est pas très différent dans les différentes langues, non. Non.
Alors, pendant le Covid, donc on ne pouvait pas sortir, et le soir de Noël, j'ai fait quelque chose de très particulier avec Eric Antoine. Vous connaissez Eric Antoine? C'est un Français qui a presque 2 mètres.
Oui, je sais.
En fait, je ne sais plus combien on était, on achetait nos places, et on avait une application mais qu'on a mis sur la télé, et on voyait sur la télé toutes les autres personnes donc chez eux. On a dû préparer, s'habiller, et donc il nous a fait un spectacle comme ça de mentalisme à distance, donc où il devinait... ce que nous, on avait pensé dans notre salon, et on voyait les autres maisons. Je trouve que c'est une avancée, enfin, on va dire, peut-être pas une avancée, nous on pousse ici les spectacles vivants, mais enfin quand c'est pas possible, vous pourriez faire aussi des certaines choses sans avoir les gens dans la salle,
mais oui, bien sûr,
les ayant voilà dans leur salon loin, etc.
Oui, comme avec Café dans Inconnu, vous avez même vu qu'il y a des gens qui partent avec des clés quartier, de quelqu'un du public avec les clés. Ils sonnent à n'importe quelle maison, il n'y a personne à la maison, et ils ouvrent la porte avec la clé.
C'est
donc
ça.
Voilà.
Oui.
Mais il n'y a rien dans ma main en ce moment, je ne peux pas leur manipuler.
C'est ça.
Et ça marche quand même.
Oui, donc... c'est, ça vous donne envie?
Oui, ça a l'air fascinant.
C'est ça. Bah quand même, vous avez quand même un petit plaisir d'avoir une sorte de pouvoir sur les gens.
Non, mais j'ai pas de pouvoir sur les gens, c'est ça que...
Non, mais voilà. De les mettre dans cet état-là, de les laisser
oui,
dans cet état-là.
Oui, parce que c'est très enfantin oui, il y a une sorte de décalage. Il y a un moment que, comme on dit... Moi, j'aime bien ce moment magique. T'as différentes possibilités. Ou tu vas vers la poésie, ou... t'es frustré parce que tu vois comment tes cinq sens disent pas la vérité,
te trompe,
en fait.
Oui.
Te trompe. Et ça, c'est aussi intéressant.
Bien sûr.
Et donc, c'est un jeu entre tout ça.
Parce qu'on sait qu'en manipulation, on regarde jamais le bon côté. C'est
non.
Comme ça. Mais chez vous, c'est... Est-ce qu'on n'écoute pas le bon côté? Est-ce que... Je sais pas.
Oui, en fait, le mentalisme, c'est vrai qu'on vous met sur une sorte de rail,
oui.
Donc un chemin,
une
logique.
Oui.
Et le moment que vous êtes sur la logique... En ce moment-là, vous allez suivre la logique qui est normale. Et en ce moment-là, moi, je peux prendre notre chemin.
Ça.
Et à la fin, on se croise et il y a la surprise.
Bon, c'est
et
magnifique.
Voilà, donc, ce n'est pas un pouvoir, mais c'est... Voilà, moi,
le pouvoir de mettre des gens dans un état second.
Oui, mais c'est facile. Quelqu'un d'autre peut le faire facile. Moi, je suis mentaliste et quelqu'un d'autre peut faire exactement la même chose avec moi facilement.
Ah oui, c'est vrai?
Oui.
Vous marchez, entre guillemets, quand vous voyez un spectacle d'un autre mentaliste?
Oui, bien sûr.
Ah oui?
Oui, bien sûr. C'est pas parce que... Justement, c'est ça. C'est pas parce qu'on suit la route que nous sommes cons.
Ah oui?
Parce que c'est ça qu'avec le pouvoir, ça semble que les spectateurs
sont cons.
Il y en a qui sont
vexés. Sont cons, mais enfin, comment j'ai pas vu? C'était en dessous de mon nez. Oui, c'est ça.
Ouais.
Il y en a qui le prennent mal. Hein, qui
disent, oui, ça, c'est possible. Oui. Mais aussi ça est intéressant.
Oui, tout à fait. Donc, le 25 avril, au Centre culturel Ducle... Voilà, et alors on va écouter une musique qu'on ne connaît pas, mais c'est ça le plaisir de faire choisir les invités, c'est que
oui,
on découvre beaucoup de choses.
Oui, ça c'est Joris Vinkrooy qui joue dans ce spectacle en fait.
D'accord.
Ouais. Et...
Voilà, choix magnifique de musique aujourd'hui, je trouve, nos invités. Hein. Franchement, bravo. Et on passe à Méduse. Héloïse Maire, donc, qui a écrit, qui joue, qui a mis en scène. Pas toute seule, je sais, mais quand même.
Avec le collectif La Gagne.
Voilà. Et que je suis très contente qu'elle va nous pitcher sa pièce. Donc, il est vraiment multidisciplinaire. Il se passe beaucoup de choses sur scène.
Oui. Méduse, c'est l'histoire de ce personnage à la chevelure de serpent qui pétrifie toutes les personnes qui croisent son regard. Et c'est une réécriture du mythe de son point de vue à elle. Parce que dans la mythologie antique, c'est toujours raconté du point de vue de Persée, le héros qui la décapite. Et ici, c'est elle qui raconte son histoire. Et on revient notamment sur pourquoi Méduse a été transformée en monstre. Puisque c'est une femme au départ et puis elle est transformée.
Parce qu'elle a fauté.
Alors, ça dépend justement des versions des auteurs grecs et latins. Mais effectivement, dans certaines versions, notamment celle d'Ovide, on comprend que c'est parce que Méduse a été violée par Poséidon qu'elle est transformée en monstre. Et donc, on revient sur toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, et sur cette transformation, puis tout le chemin de résilience après ça.
Avec quand même une référence à aujourd'hui.
Oui, voilà, donc on mélange le mythe à des paroles, à des témoignages de personnes d'aujourd'hui. Et voilà, ça parle de personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et donc, ça parle aussi de toute la culture dans laquelle la culture du viol est possible aujourd'hui. Et donc, ça nous parle d'aujourd'hui, du passé et du présent.
Et dans laquelle c'est la femme qui dit, dans certaines, la femme reste fautive. La femme violée, parfois.
Ben oui, il peut y avoir aussi tout ce que la société véhicule autour de ça. Qu'est-ce que c'est aussi aller porter plainte, toutes les difficultés autour de ça, l'entourage, la famille, voilà comment c'est vécu, puis comment est-ce qu'on peut se frayer un chemin là-dedans et continuer à vivre.
Alors, on a dit beaucoup de techniques, je ne sais pas comment dire, utilisées. Il y a beaucoup de qu'est-ce qu'on peut dire?
Donc il y a de la vidéo et du son en direct au plateau.
Oui, ça veut dire qu'il y a une petite caméra et qu'on voit à l'écran la petite caméra qui filme.
C'est nos smartphones en fait, c'est assez facile, c'est un outil de tous les jours. Donc il y a effectivement deux smartphones sur scène avec lesquels on filme et toutes les images sont créées, enfin presque toutes, pas toutes, mais en direct au plateau avec différentes matières et sur des supports différents, notamment des parties de nos corps. Donc, on essaye de re-raconter en images aussi ce mythe-là avec un aquarium, de l'eau, et voilà, du papier, différentes matières qui vont évoquer en fait tous ces passages du mythe. Et puis, il y a aussi de la création au micro, en direct, voilà, tous les bruitages et puis la musique qui est créée au plateau.
Alors, comment il est né ce spectacle en fait? Quel était le premier but? C'était de parler du viol
Non, le premier but, on voulait parler de la confiance en soi. Donc voilà, c'est toujours comme ça un peu dans la création d'un spectacle. On part d'un thème qu'on a envie d'explorer.
Féminine ou générale?
Oui, voilà, on est trois, Sophie de la Colette, Alice Martina et moi-même, donc du collectif. Et on avait envie de parler de ça. Et puis on a commencé à lire en fait plein de récits qui sont encore fort ancrés aujourd'hui dans la société. Des récits qui nous constituent d'une certaine manière, donc notamment les mythes. Puis on est retombé sur ce mythe de Méduse et en le relisant, il nous a pas du tout plu en fait. On s'est dit, on n'aimait pas la façon dont il était raconté. On s'est dit, ok, on a envie de le re-raconter. Et comment est-ce qu'on peut le raconter de son point de vue à elle et aussi nous, trois femmes, avec nos corps. Comment est-ce qu'on peut raconter avec des parties de nos corps ce récit et d'une certaine manière se réapproprier cette histoire comme on se réapproprie les images.
C'est ça. Donc le fond, je vois. D'où vous êtes parti et à quoi vous êtes arrivé et la forme, quel a été le travail? Parce que c'est très créatif, enfin c'est voilà, il y a pas beaucoup de pièces avec un aquarium, un téléphone et enfin un écran, donc c'est de la recherche.
Oui, c'est vraiment de la recherche. On a travaillé, on appelle ça par laboratoire.
Oui, c'est ça. Donc c'est de la recherche.
On faisait une semaine de laboratoire où on cherchait vraiment comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire avec des images. Donc avec notre créatrice vidéo Bénédicte Alloin, on cherchait vraiment comme des petites laborantines, en fait, avec différents produits, matières. Comment est-ce qu'on peut évoquer l'animal Méduse? Comment est-ce qu'on peut évoquer sa peau qui devient des écailles? Comment est-ce qu'on peut créer ça de manière artisanale au plateau? Et pareil pour le son, on a vraiment cherché voilà comment on pouvait créer différentes sonorités.
Est-ce que ce spectacle évolue encore? Parce que quand on est dans tout ce genre de recherche, alors au plus on le joue, au plus on a des idées. Donc comment vous arrivez à fixer finalement?
Non, à un moment, il faut quand même fixer. Oui. Et ça reste c'est un spectacle assez technique, en fait. Oui. On a vraiment une partition technique c'est tout ça. Au long du spectacle. On sait exactement quelle manipulation on doit faire et où est-ce qu'il faut filmer. Et d'ailleurs, parfois, c'est du spectacle vivant, donc parfois, on a des petits soucis. Hop, la caméra ne s'enclenche pas. Quoi. Ah, donc, il faut jouer avec. Mais non, c'est quand même une partition assez écrite. Ouais.
Les garçons, ça vous donne envie?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est les métamorphoses, enfin la mythologie, tout ça, c'est tellement intéressant. Alors le prendre d'un autre angle et voir ce qu'il y a à dire aujourd'hui, ça a l'air passionnant. Ouais.
Je me suis toujours demandé, en fait, comment les hommes voyaient les spectacles qui sont une sorte de petit combat féministe dans toutes les possibilités qu'il y a. Donc comment les hommes ont envie de venir voir quelque chose
qui parle de... Oui. Ouais. Ah oui, pour différentes raisons, de comprendre ce qu'il y a dit et de la réflexion sur toi-même, aussi la réflexion sur le monde autour de toi, parce que c'est pas parce que nous sommes des hommes qu'on n'a pas un regard sur les autres hommes, que nous ne sommes pas toujours, toujours d'accord avec ce qui se passe. Donc, je trouve ça...
Donc, vous jouez aussi à Volubilis et aussi le 20... le 25, non. Et lui, c'est le 25 avril. Aussi, voilà, tous les deux. Donc, pour la petite histoire, c'est mon anniversaire. Hein, je ne peux pas venir voir non plus, ni là, ni là. Mais j'ai vu, voilà. Est-ce qu'il y a un bord de scène après? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Et comment le public réagit? De quoi on parle?
On essaye qu'il y ait toujours une rencontre après, soit avec une ASBL locale qui travaille dans la prévention ou la prise en charge des violences. Et là, il y aura une discussion avec l'ASBL Garance, qui est une ASBL qui fait de la prévention dans les écoles et qui fait aussi des ateliers de self-défense pour les femmes. Et voilà, il y a donc, bien sûr, ça permet au public d'échanger sur le spectacle, mais aussi de parler qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans la prise en charge, vers qui peuvent se tourner les personnes. Parce que voilà, c'est parfois un spectacle assez chargé. Oui. Donc parfois, il y a des gens qui peuvent en ressortir avec l'envie de parler ou de s'exprimer là-dessus.
Mais peut-être que... Est-ce que vous avez déjà eu des scolaires, par exemple?
Oui, on fait beaucoup de scolaires. Là, c'est sûr,
pour
là, c'est obligatoire. À partir de 14 ans.
Ouais. Oui, c'est ça.
Et là, c'est obligatoire qu'il y ait une rencontre après,
oui, bien sûr.
Et qu'il y ait une association qui soit présente aussi pour discuter avec les élèves.
Parce que là, donc, si on se demande à quoi sert le théâtre, là, ça sert à discuter, à réfléchir, à...
Oui, voilà, ça sert à réfléchir ensemble, à écouter aussi peut-être d'autres paroles, donc à travers tous les témoignages qu'on entend pendant le spectacle.
Et ces témoignages, ce sont des gens que vous avez rencontrés, des gens que vous avez cherchés, des vrais gens?
Oui, ce sont des personnes. Donc, on a fait un appel à témoignages. C'était pendant la période du Covid, donc on a rencontré la plupart de ces personnes, mais certaines de ces interviews se sont aussi faites par Zoom. Et du coup, c'est pour ça qu'on entend aussi des voix étrangères, il y a un accent québécois et tout ça, parce qu'en fait, on a rencontré aussi les personnes par écran interposé. Ouais.
Bon, ça vous a laissé intact. Après, quand on joue, quand on sort de ce genre de spectacle, comment on est Est-ce qu'on arrive à dormir tout de suite?
En tant que comédienne, ben bon, voilà, maintenant on l'a déjà quand même joué une soixantaine de fois, donc c'est sûr que oui, voilà, c'est notre métier de rejouer, mais chaque salle est différente. Comme Courte a dit, donc oui, chaque expérience est différente, c'est sûr que...
Et puis peut-être que justement, ça, en fonction des discussions que vous avez après, des témoignages que vous recevez après, des choses comme ça qui peuvent être bouleversantes pour vous aussi.
Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on essaye de se faire aussi accompagner par des associations.
Oui, c'est ça. Oui, super. Bon, bah, varié, hein, le spectacle en Belgique quand même. C'est un peu lourd, mais c'est quand même très poétique, c'est très créatif, c'est très... voilà,
oui,
il y a de la distance,
il y a vraiment...
Hein.
Puis il y a tous les personnages du mythe qui sont
exactement.
Là, mais qui sont parfois exubérants, voilà. Il y a les grès, enfin voilà...
Si je dois mettre un mot dessus, c'est un spectacle très riche, en tout cas. Donc voilà, ça, peut-être qu'il faut après décanter et tout. Enfin, voilà, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est très riche, en tout cas. Ça vaut le déplacement. Alors, en faisant votre CV, parce que voilà, je ne retiens pas toujours les noms de tout ce que je vois. Et donc, j'ai vu que vous aviez fait la mise en scène de Dream Job, que j'ai adoré. C'était un spectacle. Malheureusement, on n'a pas pu les recevoir et on n'avait pas d'émission. Mais par contre, on a reçu Alex Colette. Donc,
Alex Lorette.
Lorette, ouais. Voilà. C'est un spectacle très intéressant où ce sont les musiciens qui sont aussi des acteurs, ce qui est très rare parce qu'il a fallu trouver des musiciens acteurs. C'est pas facile, hein.
Un batteur surtout, c'est ça
Entre autres, mais.
Ils sont tous musiciens.
Ah bon
Je me souviens de la batterie.
Bah, oui, il y a de la guitare, la basse, du clavier, du saxophone.
Donc voilà, chacun retient quelque chose. Donc vous avez joué, je sais, et Songe d'une nuit d'été tourne encore. Vous venez de jouer aux poches encore, c'est ça?
Oui,
vous l'avez joué en janvier.
Vient de terminer sa tournée. Voilà. Là maintenant, on reprend au mois d'août au festival Théâtre.
Voilà, Vert, magnifique. Et vous étiez déjà, Jean-Michel Daube, on l'a reçu aussi, j'adore son travail. Vous étiez déjà dans L'herbe et l'oubli, c'est ça?
L'herbe de l'oubli, c'est ça. Factory, et l'année prochaine, L'empreinte.
À nouveau, on se réjouit. Et j'avais même vu au XS, donc l'objet de mon attention, le XS qui n'existe plus malheureusement, ouais. Mais voilà, c'était vraiment génial. Un dernier petit tour juste pour rappeler les dates. Donc, c'est facile, tout le monde joue le 25 avril, donc ça c'est facile.
C'est pour ton anniversaire.
Exactement, c'est un feu d'artifice. Il faudrait faire comme à Avignon, à 6h on envoie un, à 8h on envoie un autre, au moins on pourrait en voir plusieurs, c'est vrai. En France, il y a certains théâtres qui font ça, où on a deux ou trois spectacles comme ça. Bon, pour utiliser la salle chez nous, c'est pas encore d'actualité, ça n'existe pas encore. Donc, le 25 avril, vous avez le choix entre Kurt qui vient au Centre culturel Ducle et où on a des places à vous offrir. On a Samuel Valenti, donc Coupure, je vous jure que ça vaut la peine. Là, c'est le 18 et le 19. Donc, si vous avez l'occasion, c'est une pièce très intelligente et très agréable et très drôle. Et on a envie d'en parler après, franchement. On se dit, voilà. Le Mystère du Gant, donc du 16 au 26 au Martyr. On a le temps, vous avez le temps d'aller, il y a 10 jours. Hein.
Et n'est pas le 25, allez voir.
Oui, c'est ça. Et Loïse Mer, le 25 à Volubilis. Et on finit avec la musique d'Héloïse qui est
Lady Leisure et c'est Juice.
Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. On n'a pas d'émission pendant quelques fois parce qu'on a